Le journal vous est présenté par Julie Smul.
Bonsoir. C'est la plus faible mobilisation enregistrée depuis le début du mouvement. Un peu moins de 19 000 gilets jaunes recensés aujourd'hui partout en France. Pourtant, la colère, elle, ne faiblit pas. On l'entendra au milieu de la foule à Paris. On entendra aussi, et c'est une première, la version de ceux qui ont été arrêtés mercredi dernier pendant l'incident de la Pitié-Salpêtrière. Ils dénoncent aujourd'hui leurs conditions de garde à vue. Dans ce journal, on ira au Proche-Orient. La tension monte. Roquettes palestinienne contre raids aériens israéliens et l'Europe qui appelle ce soir au calme. Et puis du foot, le match entre le PSG et Nice vient de se terminer dans une ambiance plutôt tendue, score final un partout. Décidément, c'est compliqué, très compliqué en ce moment pour les Parisiens.
France Inter.
18 900 manifestants recensés aujourd'hui dans toute la France. C'est 4 700 de moins que samedi dernier. C'est surtout le chiffre le plus bas, la mobilisation la plus faible depuis le début du mouvement, mi-novembre. Un peu de lassitude peut-être, alors que la colère, elle, ne faiblit pas. Exemple à Paris, dans l'un des défilés du jour, celui qui a relié l'hôpital de la Riboisière à la place de la Nation, Justine Leclerc.
Parmi les slogans repris par les centaines de gilets jaunes, Castaner menteur, Castaner coupable, cette manifestante venue de Beauvais est en colère contre le gouvernement.
C'est tous les samedis, à chaque manifestation, c'est un cran au-dessus. On passe pour des super méchants. On a été anti-juifs, on a tout. Aujourd'hui, il pleut, c'est de notre faute aussi. Hein, voilà, c'est ça maintenant. Donc moi... Par rapport à l'intervention du chef de l'État, rien n'a été donné. Donc moi, tous les prétextes vont être bons pour que je continue. Faut continuer. C'est tout. J'ai pas le moral là en ce moment quand même. Hein. C'est fatigant.
Autre message des Gilets jaunes, la défense des services publics et des hôpitaux.
Ils s'en sortent plus. Il y a des coupes de personnel, il y a des coupes de moyens, mais toujours autant de personnes qui ont besoin d'hôpital. Donc c'est pour le milieu hospitalier.
Malgré la fraîcheur parisienne, des gilets jaunes de Troyes, du Loiret, de Picardie, de Paris et de la région parisienne sont bien là pour ce 25e samedi d'action.
Le reportage de Justine Leclerc à Paris avec les moyens techniques d'Olivia Granger. Partout ailleurs en France, là aussi, des cortèges clairsemés aujourd'hui. Le point de ralliement de la journée en région, c'était la Roche-sur-Yon. 500 gilets jaunes réunis dans le centre-ville, un secteur pourtant interdit par les autorités. Quelques tensions et affrontements avec les forces de l'ordre. Au moins 3 manifestants sont blessés. À Toulouse, on a compté aujourd'hui 2000 personnes dans les rues, un peu plus à Metz, près de 3000, mais c'est parce que les gilets jaunes ont rejoint en fait un autre cortège, celui de la marche mondiale organisée par des ONG à la veille du G7 environnement. À Bordeaux, les gilets jaunes étaient 1400, une centaine à peine à Avignon. Des gilets jaunes qui peuvent compter sur le soutien aujourd'hui de 1400 artistes, des comédiennes comme Juliette Binoche ou Emmanuel Béard, des écrivains aussi, qui signent tous une tribune sur le site de Libération. Les gilets jaunes, c'est nous, disent les artistes qui saluent une mobilisation historique. On en a parlé, les chiffres en baisse, en très nette baisse pour aujourd'hui. Rien de comparable avec les chiffres des manifestations de mercredi dernier pour le 1er mai. Une journée, vous vous en souvenez, marquée par l'affaire de la Pitié-Salpêtrière. Une affaire qui depuis est devenue l'affaire Castaner. Le ministre de l'Intérieur avait dénoncé l'attaque de cet hôpital parisien par des manifestants. Une version contredite depuis par de nombreux témoins, vidéos à l'appui. Une trentaine de personnes arrêtées en marge de cet incident, placées en garde à vue, libérées depuis, mais qui prennent aujourd'hui la parole pour la toute première fois des personnes qui dénoncent leurs conditions de garde à vue, Mathilde Dehimi.
Ils confirment qu'ils ont voulu se mettre à l'abri des lacrymos et qu'ils ne savaient pas que le service de réanimation se trouvait là. Mais ils racontent aussi l'après, quand le groupe est sorti du bus et se voit notifier leur motif de garde à vue.
Intrusion, couplée pour certains à rassemblement en vue de violence, ou violence, ou dégradation. Tout le monde était choqué, nous ne comprenions pas d'où sortaient ces accusations.
Le collectif dénonce des conditions de garde à vue difficiles.
En pleine nuit, les forces de l'ordre venaient nous réveiller en frappant nos portes de cellules avec des matraques et en passant les clés sur les grilles pour faire le plus de bruit possible et nous empêcher de dormir. De nouveaux chefs d'accusation sont apparus sur les feuilles d'interpellation de certains d'entre nous, à savoir bande armée et utilisation d'objets explosifs. Tout cela n'avait aucun sens. Certains se sont fait menacer d'être renouvelés de garde à vue pour 24 heures. Le dépôt était présenté comme un endroit n'abritant que des criminels, susceptibles de nous violer pour certaines.
Certains tremblent encore, les larmes montent. Ils font toujours l'objet d'une enquête préliminaire. Mais il y aura sûrement une suite, estime l'un des gardés à vue, Jacques Leleu.
La situation est délicate. Il nous faut quelques jours pour trouver la bonne riposte. On est sur un scandale d'État.
Il va falloir qu'ils payent ce mensonge, cette manipulation, cette incompétence. Vous vous rendez compte, ils montent une cabale et ils se plantent.
Nous avons eu peur, dit l'un d'entre eux, peur de nous faire frapper par la police. Nous cherchions simplement l'asile dans cet hôpital, conclut-il.
Le reportage de Mathilde Dehimi pour France Inter.
Le journal de 19h sur France Inter.
C'est un record. 33 listes françaises sont donc en compétition pour les européennes à la fin du mois. Ça veut dire plus de 2600 candidats différents. Parmi ces listes, une quinzaine viennent des partis traditionnels. Trois viennent du mouvement des Gilets jaunes. Pour le reste, eh bien, c'est une multiplication de petites listes comme celle du Paris Parti pirate ou encore celle du parti animaliste, des toutes petites formations qui cherchent avant tout dans ce scrutin une vitrine. C'est ce que nous dit Jean Petaut, il est politologue à Sciences Po Bordeaux.
C'est ce qu'on appelle en sciences politiques la fonction tribunicienne. Et ce que recherche un certain nombre de formations politiques, c'est un effet de tribune, donc c'est-à-dire le support qu'offre pour faire partager ou diffuser ses idées une telle élection. Alors il faut aussi préciser qu'en 1999, dernière élection de référence pour les européennes avec un scrutin national et une seule liste, il n'y avait eu que 6 listes qui avaient pu obtenir les sièges parmi les 20 qui étaient candidates. Donc vous voyez, il y en aura effectivement très peu qui pourront prétendre à la distribution des sièges.
Plusieurs petites listes reprennent à leur compte des idées d'extrême droite, notamment sur l'immigration. Le Rassemblement national ou Debout la France les regarde-t-il avec condescendance ou avec une petite inquiétude quand même dans la mesure où elles peuvent capter une petite partie des voix des abstentionnistes?
Ce qui est certain, c'est que ces listes qu'on a citées, c'est-à-dire la liste de Camille ou d'autres listes, ne vont évidemment pas prétendre faire un score important. Donc je ne puis pas persuader qu'en termes électoraux, ça gêne ces formations plus importantes comme le RN ou Debout la France.
Le politologue Jean Petaut qui répondait à Olivia Ferrandi ce matin chez nos confrères de France Info. Beaucoup de choix, donc, vous l'avez compris, pour ces européennes. Pas sûr que cela attire les électeurs. En 2014, l'abstention avait été de 58%. Alors pour essayer de convaincre les électeurs de s'intéresser à ce scrutin, encore mieux de voter, aujourd'hui à Bruxelles, ces journées portes ouvertes. On peut par exemple visiter le Parlement européen, Johanna Hauchstein.
Ici, c'est la foule des grands jours, drapeau européen à la main. Jean-Paul, 11 ans, participe au scrutin spécialement organisé pour les plus jeunes.
J'ai deux petits, je peux les prendre avec.
Il a le choix entre plusieurs candidats.
Il y a Oscar qui veut avoir de l'argent des poches obligatoirement pour les enfants. Il y a aussi le candidat Thomas qui veut plus de sport à l'école. Alors c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir, pour votre avenir.
Je peux faire tout avec vous.
Plus loin, on fait la file pour se faire photographier avec les eurodéputés en campagne, comme le belge Guy Verhofstadt, une des têtes de liste de la famille centriste, allié des candidats En Marche.
Voter pour un groupe qui sera renouvelé, certainement le nôtre, parce que nous croyons dans l'Union européenne.
Today. I'm being born.
Sur des écrans, une vidéo tourne en boucle. On y voit plusieurs femmes en train d'accoucher, des naissances qui sont toutes réelles. Le message, votez pour le futur de vos enfants. Jean Médouc, porte-parole de l'institution.
On a voulu, pour une fois, toucher les cœurs des gens et pas seulement les cerveaux. Ça marche très bien. En moins d'une semaine, il y a plus de 80 millions de citoyens qui ont regardé ces films sur les différents réseaux sociaux.
L'espoir ici, c'est que ces millions de vues se traduiront dans les urnes. En 2014, moins d'un Français sur deux a participé au scrutin européen. Johanna Hauchstein à Bruxelles, France Inter.
C'est une information qui nous vient ce soir des médias algériens. La police aurait arrêté 3 des hommes les plus influents du pays. Le plus jeune frère de l'ex-président Bouteflika et 2 anciens chefs des services de renseignement. Saïd Bouteflika, le petit frère, était considéré comme le véritable numéro 1 de l'exécutif depuis l'AVC de son frère, le président, en 2013. La tension et une nouvelle flambée de violence enregistrée depuis hier au Proche-Orient. Des roquettes envoyées depuis la bande de Gaza, direction Israël, en représailles, l'État hébreu qui ferme ses points de passage et les zones de pêche au large de l'enclave palestinienne. L'Union européenne appelle à l'arrêt immédiat des tirs de roquettes. Sur place pour France Inter, les précisions de Marine Vlaovic.
C'est un bras de fer à coups de roquettes et de raids aériens qui se poursuit depuis des heures. L'armée israélienne qui a fermé les points de passage de la bande de Gaza continue de bombarder l'enclave. Des frappes de représailles qui ont tué au moins 2 Palestiniens, dont un bébé selon le Hamas. En Israël, les sirènes d'alerte ne cessent de retentir, tandis qu'une pluie de roquettes s'abat sur le sud du pays. Près de 200 missiles palestiniens ont touché les communautés israéliennes voisines. Des tirs revendiqués en grande partie par le djihad islamique, la deuxième faction de la bande de Gaza. L'État hébreu ne s'attend pas à un retour au calme dans l'immédiat, car à 2 semaines de la finale de l'Eurovision, qui se déroulera à Tel Aviv, cette flambée de violence est une occasion pour les Palestiniens d'obtenir des concessions israéliennes sur un allègement du blocus. Ramallah, Marine Vlaovic, RFI pour France Inter.
Au Venezuela, Nicolas Maduro demande à ses soldats de se tenir prêts en cas d'attaque américaine. Discours aujourd'hui du président controversé devant son armée, alors que son opposant numéro 1, Juan Guaido, appelle lui tous les Vénézuéliens à manifester devant les casernes pour demander aux militaires d'arrêter de soutenir le pouvoir en place. 9 morts au Bangladesh, 10 dans l'est de l'Inde. C'est le bilan encore très provisoire ce soir du passage du cyclone Fani, annoncé comme le plus puissant de ces dernières années dans l'océan Indien. Il a perdu en intensité. Plus de 3,5 millions de personnes ont déjà été évacuées, les autorités des deux pays craignant une catastrophe humaine. Un rassemblement en début d'après-midi à Paris, une action de WWF France, alors que les délégués de 132 pays ont adopté ce matin le rapport sur la biodiversité de l'IPBES, le groupe d'experts de l'ONU. Un document qui en fait est censé aiguiller les décideurs du monde entier et leur permettre de prendre les mesures nécessaires pour sauver à terme la planète. Lisa Guyenne a assisté pour France Inter au rassemblement tout à l'heure à Paris.
Nous sommes ici rassemblés, alors même que l'IPBES va sortir un rapport historique lundi.
Sous la pluie battante, une cinquantaine de militants masqués, déguisés en abeilles, s'allongent par terre.
Pour symboliser la disparition des pollinisateurs et de la biodiversité en général.
Arnaud Goffier est co-directeur de WWF France. Pour lui, cette action vise à alerter les citoyens avant la sortie du rapport de l'IPBES ce lundi.
Ce qu'appellent les scientifiques dans ce rapport de l'IPBES, c'est vraiment à modifier la façon dont on consomme. Ils appellent aussi les entreprises à modifier la façon dont elles produisent pour avoir moins d'impact sur l'environnement. Donc on est vraiment là sur une révolution complète de la façon dont on produit, dont on consomme et finalement des valeurs qui gèrent notre société.
Et le rapport ne fait pas que parler de la nécessité de changer, il donne aussi des clés pour le faire. C'est là toute son importance, selon Jean-François Sylvain, le président de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité. Il a participé à l'élaboration du rapport.
Ce qu'on espère, c'est que les États vont aussi s'engager. Mais il faut aussi qu'on les aide. La science doit aussi venir en appui. Maintenant, justement, l'intérêt à travers des travaux comme ceux de l'IPBES, c'est de dire à ces gens-là comment vous devez faire.
Ces recommandations serviront de base au sommet de la biodiversité, la COP15, prévue dans 1 an et demi en Chine.
Le reportage de Lisa Guyenne. Un prêtre du Nord suspendu de ses fonctions par l'Église. Une paroissienne de 18 ans l'accuse de viol. Lui reconnaît un rapport sexuel mais consenti. Il est poursuivi, ce prêtre, pour agression sexuelle et placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès. Un feu de forêt en cours en ce moment dans les Bouches-du-Rhône, près de la commune d'Ansuès-la-Redonne. 80 pompiers sont mobilisés. La ligne TER entre Miramas et Marseille est coupée pour assurer leur sécurité. Les pompiers qui ont demandé des moyens aériens nationaux en renfort. À chaque fois, le lieu est tenu secret jusqu'au tout dernier moment et c'est finalement le sud de la Creuse qui accueille cette année le Technival. Ce festival non déclaré, il rassemblait déjà ce matin 10 000 personnes, des festivaliers qui se sont installés sur un grand terrain tout près du petit village de Feignier, des festivaliers qui continuent encore d'arriver d'après la maire Nathalie Perra.
Ça a été la grande surprise à 1h du matin quand on m'a envoyé un petit message comme quoi il y avait du monde qui arrivait au terrain militaire. Je pense que tout va bien se dérouler. C'est la deuxième fois, il y a à peu près une vingtaine d'années, qu'on avait déjà eu ça. Il y a un grand emplacement, presque environ 10 hectares de terrain. Oui, donc c'est bien pour eux, quoi. Ils peuvent camper, installer leur buvette, faire tout leur petite vie quoi, pendant un petit week-end.
La maire du petit village de Feignier dans le sud de la Creuse, Nathalie Perra. Votre vie connectée comme tous les samedis soirs sur France Inter et on s'intéresse aujourd'hui à un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur sur YouTube. Ça s'appelle le unboxing, en français le déballage. Principe très simple, se filmer en train d'ouvrir un paquet et faire découvrir son contenu à ses abonnés. La star du genre, c'est un petit garçon de 8 ans qui est en train de devenir très très riche. Bonsoir Christine Siméon.
Bonsoir à tous.
Christine, ce phénomène prend une telle ampleur que les marques s'y intéressent de très très près.
Hop là, on est parti.
Je vous propose d'écouter un très court extrait de cette vidéo qui concerne en fait le déballage d'un nouveau PC assez puissant pour jouer aux jeux vidéo. Ça commence avec le scotch.
On va l'ouvrir par le dessus. Donc j'ai pris un couteau de cuisine, logique. Hein, je vais pas prendre un couteau de boucher. On l'ouvre sur le dessus, il y a énormément de papier autour.
Et ça continue dans le ventre de l'unité centrale. Okay.
Mais voilà, c'est une bonne grosse bête. En plus, il y a une petite fenêtre pour fermer le PC. C'est très stylé, putain, je kiffe. Oh, je kiffe. Est-ce qu'on peut tomber amoureux d'un PC ? Je crois que c'est possible.
Il y a donc plus de 100 000 personnes et presque 200 000 même qui ont scruté ce déballage et au final testé la puissance de l'ordinateur avec son nouveau propriétaire.
Great. So that we put all our eggs together. You ready to open the toys?
Pour le jeune Ryan, qui est le plus jeune garçon YouTuber à avoir gagné le plus d'argent avec le déballage vidéo, on est dans des scores bien plus importants.
Oui, Ryan, c'est 17,3 millions d'abonnés, près de 26 milliards de vues depuis le lancement de sa chaîne en mars 2015. Le petit garçon pèse aujourd'hui, Christine, 22 millions de dollars.
Wow! There's something inside.
Il est en train de déballer donc d'énormes œufs de Pâques en plastique qui renfermaient des jouets, des gadgets, des goulinants de couleurs. Ce déballage, dans tous les sens du terme, est une mode sur YouTube et les professionnels ne s'y trompent pas. Ils ont compté 18 millions de vidéos diffusées en 2018. Écoutez, Jakub Pawlowski, directeur régional Europe de l'Ouest de la société Pâques Help.
Premièrement, c'est un très bon moyen de visualiser la relation proche entre les créateurs d'une marque, voire d'un produit, et son client. Mais cette relation est présentée par un client, ce qui fait que ce n'est pas en fait une publicité, mais une recommandation d'une personne qui est vraiment honnête et forte.
Et voilà, le client fait le boulot lui-même, le travail de publicitaire, de bantest, il devient un porteur sérieux et indépendant de la marque. C'est à se demander si bientôt l'expérience du déballage ne remplacera pas le produit.
Merci Christine Siméon, c'était votre vie connectée. Vous avez tous les détails, les vidéos aussi à retrouver sur internet franceinter.fr. Le foot est un partout entre le PSG et Nice, un match au Parc des Princes qui s'est terminé il y a quelques minutes. C'est compliqué en ce moment pour les Parisiens, Fanny Lechevestrier, mais au moins ce soir, hein, une bonne chose, ils évitent la défaite.
Oui, le PSG sauvé des eaux, on va dire, avec ce match nul en partout face à Nice. Hein. C'est sous une pluie battante hein, et à défaut donc de renouer avec la victoire que les Parisiens ont réussi tout de même à ne pas perdre et même à revenir au score face à des Niçois entreprenants. Hein. Et ils sont revenus au score avec ce pénalty marqué par Neymar à l'heure de jeu et au vu des dernières rencontres, une seule victoire en 5 matchs pour le champion de France, eh bien, ce n'est déjà pas si mal. Ce match nul aura le mérite de calmer quelque peu la colère des supporters parisiens. Pas de sifflet ce soir au Parc des Princes, mais un stade très très clairsemé et sans briller. Le PSG moribond peut donc se vanter d'être toujours la seule équipe invaincue à domicile cette saison en Ligue 1. Alors bien sûr, Paris aurait aussi pu gagner ce soir sans ce deuxième pénalty manqué dans les arrêts de jeu par Edinson Cavani. Mais voilà, ce soir on en restera à un partout pour Paris, pour Paris face à Nice.
Fanny Lechevestrier en direct du Parc des Princes pour France Inter. À suivre encore en Ligue 1 dans un peu moins d'une heure à 20h. Coup d'envoi de Bordeaux, Angers, Guingamp, Caen et Reims contre Nîmes. Un mot de rugby avec la 24e journée du top 14. Toulouse qui établit aujourd'hui le nouveau record de la saison. 13 essais marqués cet après-midi contre Pau. Score final 83 à 6 pour les Toulousains. Les Toulousains leaders au classement avec 12 points d'avance sur Clermont. 3 matchs sont en cours en ce moment. Clermont, Perpignan, Castres, Montpellier et Grenoble-Agen. Enfin, ce soir à 20h45, ce sera La Rochelle qui accueillera Toulon. Des flocons, au début du mois de mai, il a neigé aujourd'hui dans l'est de la France, à Belfort par exemple. Il a fait aussi moins de 4 degrés ce matin à Paris. Et demain, ça ne sera pas mieux. On voit ça dans un instant.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
La météo avec vous, Jean-Michel Golinski.
Demain, le vent va souffler fort en Méditerranée jusqu'à 110 km à l'heure pour le Mistral et la Tramontane, 120 sur le Cap Corse, avec du soleil dans le Golfe du Lion, une forte instabilité parfois orageuse des Alpes du Sud à la Corse, et le maintien d'un ciel d'averse sur la moitié est du pays, des Alpes à la frontière allemande jusqu'aux Ardennes, au bassin parisien, au centre et au massif central, avec toujours un peu de neige à prévoir en début de journée sur les différents reliefs. Plus à l'ouest, on appréciera le retour d'éclaircies, souvent plus étendues et plus larges l'après-midi. Si vous avez des plantations sensibles au gel, il faudra les protéger de la nuit prochaine, notamment dans l'intérieur où les thermomètres vont souvent approcher les 0 à moins 2 degrés. Et ce dimanche après-midi, les maximales seront partout nettement inférieures au normal, avec une forte baisse par rapport à aujourd'hui, notamment autour de la Méditerranée, dans le sud-ouest et en Rhône-Alpes.